C'est par le psaume 112, je crois que ça va apparaître devant moi, et bien sur l'écran, verset 7, pendant que je m'organise aussi. Voilà. Donc le verset dit ceci, en parlant du juste, c'est-à-dire nous hein, qui sommes sauvés, lavés par le sang de Jésus, nous sommes devenus des justes devant Dieu, purifiés hein, grâce à Jésus. Il est dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Amen. Alors, je pense que vous serez forcément d'accord avec moi quand je dis que dans ce pauvre monde où nous sommes, les mauvaises nouvelles sont en général beaucoup plus nombreuses que les bonnes. Hein? Si je vous dis ce matin, ça, il y a une bonne nouvelle. Hein? Il y aura plus d'impôts à payer. Alors, vous allez rigoler. Hein? Et vous allez dire que M. Barry, vous êtes un gros menteur. Hein? Enfin, taquineur, du moins. Et nous savons que malheureusement, chaque fois qu'on ouvre les informations à la télé ou qu'on lit le journal, quoique maintenant c'est plutôt les smartphones qu'on lit plutôt qu'autre chose, c'est toujours pareil. Il y a, hélas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles. Eh bien, dans le monde en général, c'est rare, de temps en temps, mais c'est rare qu'il y a une bonne nouvelle. En général, c'est des mauvaises nouvelles. Et peut-être que dans notre vie aussi, ça nous arrive d'avoir malheureusement des mauvaises nouvelles. Et pourtant ce verset dit, eh bien, qu'on n'a pas besoin de craindre les mauvaises nouvelles. Eh bien, notre cœur peut être ferme, confiant en l'Éternel. Et je voudrais ce matin, si Dieu me le permet, eh bien, développer avec vous, eh bien, quelques cas de figure de situations dans lesquelles on peut, inévitablement, tôt ou tard, si ce n'est pas déjà fait, on va s'y retrouver. Eh bien, de situations difficiles, voire même tout à fait impossibles. Mais là, eh bien, je crois de tout mon cœur que Dieu a une solution pour chacun de nous, que son nom soit loué. Je dois vous avouer que quand je préparais ce message il y a quelque temps de cela, j'étais quelque peu inspiré par une méditation que, avec mon épouse, nous avons lue Sur notre iPad, hein, nous aussi, oui, hein, on a l'iPad, hein, incontournable, hein, et parce que nous recevons, eh bien, tous les matins une méditation en anglais. Ah ben oui, mais vous savez qu'au ciel, on va parler anglais, hein, il y en a, on va manger français, mais on va parler anglais. Hein. Alors, donc, et dans cette méditation, hein, il y avait une illustration que ça m'a frappé, et tiens, ça pourrait servir de départ pour un message. C'est l'histoire du film Ben-Hur. Alors, peut-être que les jeunes ne connaissent pas trop, mais en général, les personnes un peu plus âgées connaissent. Qui a vu le film Ben-Hur? Oui, pas mal. Il est passé dernièrement hein, à la télé. Bon, moi, je ne l'ai pas regardé, mais bon. Et pour ceux qui ignorent, le Ben-Hur, c'est ce qu'on appelle un peplum. Je pense qu'on le prononce comme ça. C'est une histoire de l'Empire romain à l'époque de Jésus. Et Ben-Hur était contemporain de Jésus. Il l'a croisé une fois ou deux, si ma mémoire est bonne. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est qu'à un moment donné, dans ce film, il y avait une course de chars. Et je me rappelle avoir vu ce film il y a je ne sais pas combien d'années, et j'étais déjà impressionné, n'est-ce pas? C'était quand même quelque chose d'extraordinaire, et ça se faisait à l'époque, il y avait tous ces chars de guerre, de course, tirés par je ne sais pas combien de chevaux, qui faisaient le tour, et bon, tous les coups, les mauvais coups étaient permis, et l'histoire, c'est une anecdote vraie. Celui qui incarnait Ben-Hur, l'acteur Charles Heston, eh bien, il était là, il essaye de maîtriser le char, il était debout dans son char, tiré, je ne sais pas si c'était 3, 2 ou 4 chevaux, peu importe, et il avait toutes les peines du monde, même de rester debout, pour rester debout dans son char. Et à un moment donné, parce que bon, évidemment, il y a les, comment on appelle ça, les tournages, pas mal, avant d'arriver à ce que vous voyez sur l'écran. Et donc, à un moment donné, il va voir le directeur, il dit, écoute, j'arriverai jamais. J'ai du mal à me tenir debout dans le char et je suis censé gagner la course. Hein, j'arriverai jamais. Et le directeur, hein, qui supervisait le tournage et tout le reste, hein, il dit, écoute, toi, ton boulot, c'est de rester debout pour gagner la course, c'est moi qui m'en occupe. Évidemment, avec toutes sortes d'astuces, de trucages, tout ce que vous voulez, eh bien, le résultat final, c'est que évidemment, c'est lui qui gagne la course. Mais dans la réalité, il n'arrivait même pas à tenir debout, hein, dans le char. J'ai pensé que finalement, eh bien, quelque part, c'est un peu notre situation dans la vie spirituelle. Hein, des fois, on a du mal à tenir debout. Hein, des fois, c'est faut beaucoup d'efforts pour nous rester même debout, hein, dans la course dans laquelle nous sommes engagés. Mais heureusement que le Seigneur, lui, va toujours s'arranger pour qu'on gagne la course, parce que c'est lui qui a gagné la course. Que son nom soit loué. La victoire nous appartient, parce que finalement, c'est lui qui s'en charge, il s'en occupe. Que Dieu soit loué. Et ce matin, j'ai pensé à 3 ou 4 figures où, effectivement, ce n'est pas toujours facile de gagner, de rester debout même. Hein? Eh bien, sur l'écran, si ce n'est pas déjà là, il y a un deuxième verset qui va s'afficher. Eh bien, c'est dans 2 Corinthiens 7, 5, où il est dit, car c'est Paul qui dit cela, hein? Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair, c'est-à-dire notre corps, quoi, n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Hein? Le moins qu'on puisse dire en lisant ces paroles-là, c'est que l'apôtre Paul était dans une situation de stress total. Hein, de stress total. Sans entrer dans tous les détails, eh bien, il nous fait remarquer dans ces versets qu'en arrivant en Macédoine pour y prêcher l'évangile, ce n'était pas de tout repos. Hein, ce n'était pas une promenade de santé. Eh bien, il y avait des luttes, des combats, eh bien, des ennemis, des situations terribles, horribles, même, eh bien, à l'intérieur, enfin, dedans. Il y avait la crainte, c'est normal, hein, l'apôtre Paul il était quand même un être humain comme nous, et des fois aussi on se retrouve dans des situations de stress extrême, et ce n'est pas facile, il faut lutter sur tous les fronts, et on se demande si on va s'en sortir, mais comme l'apôtre a crié à Dieu pour le secours, eh bien, nous aussi, nous pouvons demander au Seigneur. Il se peut que ce matin même, quelqu'un, eh bien, vive une telle situation de stress, peut-être que demain, eh bien, en reprenant votre activité professionnelle, vous allez dire, mais comment je vais faire? J'ai un patron insupportable. En général, ils le sont, vous avez remarqué, hein? Pas les patrons chrétiens, bien entendu. Hein? Hein, j'ai un patron insupportable, j'ai des collègues, et ils sont jaloux de moi, je n'en peux plus, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai des examens qui m'attendent, j'ai les contrôles techniques de ma voiture, et je ne sais pas si on va y passer, enfin, encore ça, c'est peut-être pas trop, trop grave, hein? Ça, c'est que la mécanique, la tôle, mais, oh là, j'ai des examens médicaux qui me tombent dessus, et j'ai de la famille, j'ai une belle-mère insupportable. Non, vous n'avez pas ça, c'est déjà pas mal. Ma belle-mère, j'avais aucun problème, elle parlait italien. Et moi, je ne comprenais pas ce qu'elle disait, alors, donc il n'y avait pas de problème. Hein? Hein? Et ma femme faisait l'interprète, mais des fois, elle ne m'interprétait pas, peut-être pas toujours, exactement. Hein? Bon, bref. Non, mais c'est vrai, des fois, on est dans des situations insupportables, impossibles. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Eh bien, avec tout ce qui m'arrive, et je n'arrive pas à tenir debout, mais le Seigneur nous dit, tiens bon, tiens bout, parce que la victoire m'appartient. Que Dieu soit loué. Alléluia. Deuxième cas de figure, c'est quand on se retrouve, bon, ça peut rejoindre tous ces cas de figure dont je vous parle ce matin, se rejoignent quelque part, oui. Le deuxième, c'est cette situation où on se sent complètement coincé. Complètement coincé. Hein? On ne sait pas ce qu'il faut faire et une situation tombe dessus qu'on n'a pas envisagé, qu'on n'avait surtout pas souhaité. On est là, on se retrouve mains et pieds liés. Eh bien, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Eh bien, on ne sait pas ce qu'il faut aller tout droit ou à gauche ou à droite. Ou on ne sait pas. On ne sait pas. On a beau retourner la chose dans notre tête. Eh bien, la situation est telle qu'on est complètement coincé. J'ai pensé dans l'Ancien Testament le cas de quelqu'un qui vraiment s'est retrouvé dans cette situation. C'est Jonas. Hein, le prophète rebelle, le prophète désobéissant, hein, c'est-à-dire le contraire de nous autres, quoi. Oui, oui. Eh bien, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est retrouvé dans une situation où il était coincé. Hein, le moins qu'on puisse dire. Pour ceux qui ne se rappellent pas trop l'histoire de Jonas, vous rappelez que Jonas était le prophète rebelle, désobéissant. Hein? Il reçoit à un moment donné l'ordre d'annoncer un message dans la ville de Ninive, là où il y a maintenant l'Irak, etc. Mais cet ordre ne lui plaît pas trop, parce que les Ninivites sont les ennemis du peuple d'Israël. Hein? Et Jonas, même si le message est un message de jugement et de destruction, déjà il soupçonne quelque part que, eh bien, Dieu aura pitié de ces gens-là. Et Jonas, ça ne lui plaît pas trop parce qu'il n'aime pas ces gens. Donc, au lieu d'aller vers l'est, dans la bonne direction, eh bien, hop, il va vers l'ouest, il prend un bateau, on pense, pour aller plutôt vers l'Espagne. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça, vous rappelez, et Dieu suscite eh bien, une terrible tempête. Alors j'abrège l'histoire, et finalement on découvre, les marins découvrent que c'est Jonas qui leur attire ce malheur, et même s'ils ne veulent pas trop au départ, finalement ils le jettent à la mer, et chose étonnante, mais en même temps ce n'est pas si étonnant que ça. Dès que Jonas s'est jeté à la mer, la tempête se calme. Et les marins sont tellement saisis qu'ils réalisent que vraiment c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc il y a déjà un bon point. Ces marins, n'est-ce pas, eh bien on peut dire quelque part qu'ils se convertissent au Seigneur. Enfin, mais Jonas, lui, il tombe dans la mer parce qu'on l'a jeté à la mer et normalement c'est terminé pour lui. Parce qu'ils sont bien en pleine mer, hein. Ils sont à des kilomètres et des kilomètres de la terre. C'est fini pour lui. Même s'il sait nager, bon, on ne peut pas nager non plus 50, 100, 200 kilomètres. C'est fini pour lui, mais pas pour Dieu. Hein. Et Dieu a donné l'ordre à un grand poisson de l'avaler. Beaucoup de gens, eh bien, beaucoup de gens parlent du fait que c'est peut-être une baleine. Ce n'était pas forcément une baleine. Et pour la petite histoire, il y a eu des cas. Je me rappelle avoir lu le cas il y a quelques années qu'ils avaient pêché un grand poisson et en l'ouvrant, ils avaient trouvé les restes d'un homme dedans. Il n'était plus en vie. Hein? Il avait été avalé et digéré. Et bon, normalement, c'est ce qui va arriver à Jonas. Hein? Et donc, Jonas se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'issue. C'est terminé pour lui. Sauf que, tout d'un coup, eh bien, il commence à crier à Dieu. Et quand on lit eh bien, les versets qui suivent dans le livre de Jonas, on voit que Jonas, eh bien, dans toute sa prière, eh bien, ce sont surtout des versets des psaumes qu'il présente à Dieu, il se rappelle. Il sait que normalement c'est fini pour lui, mais il se rappelle. Il demande pardon à Dieu, il revient à Dieu. Peut-être que Dieu aura pitié de lui. Et effectivement, eh bien Dieu va avoir pitié de lui. Même s'il reste 3 jours et 3 nuits, c'est long. Hein? Je m'imagine. Hein? L'odeur doit être insupportable. On ne sait pas comment il a pu vivre et respirer dans ces conditions pareilles. Mais quand même, Dieu veille sur lui. Et Et à un moment donné, eh bien, Dieu a donné l'ordre à ce poisson, qui était plus obéissant à Dieu que le prophète au départ, eh bien, de vomir de Jonas. Et encore, petit détail intéressant, il a vomi Jonas sur la terre. Ça veut dire que pendant ces 3 jours et 3 nuits, Dieu avait dirigé ce poisson pour qu'il s'approche de la terre. Parce que s'il avait vomi en pleine terre, Jonas n'était pas beaucoup plus avancé, vous comprenez? Et tout ça pour dire que oui, il y a des situations. Eh bien, on ne sait pas ce qu'il faut faire et on ne peut rien faire même. On ne peut rien faire parce que Jonas ne pouvait rien faire, sauf, mais c'est l'essentiel, se repentir, demander pardon à Dieu, prier Dieu et dire « Seigneur, bon, c'est toi qui es souverain. Si tu veux que je périsse là, je périrai. » Mais on n'aurait jamais eu les paroles dans notre Bible à ce moment-là. Mais Dieu a encore un plan pour Jonas. Même si Jonas, il fait un peu à contre-cœur, mais Dieu est plein de bonté, de miséricorde à notre égard, que son nom soit loué. Oui, peut-être que ce matin, bon, vous n'êtes pas dans le sens véritable, dans le ventre d'un poisson. Et probablement, vous et moi, on n'y serait jamais. Enfin, c'est ce que je souhaite pour vous et pour moi aussi. Mais peut-être que vous êtes dans une situation, franchement, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Eh bien, priez Dieu, comptez sur lui, mettez votre foi en lui. Il agira, que son nom soit loué. Et en réfléchissant à tout cela, ça m'a rappelé 2-3 livres quand j'étais jeune chrétien. Je n'étais pas encore marié, donc ça remonte à quelques années. Et oui, je ne vais pas vous dire combien. Et voilà que quand j'étais jeune chrétien, j'avais lu des livres par un missionnaire anglais qui s'appelait Jeffrey Bull. Qui a écrit 2 livres qui m'avaient profondément marqué à l'époque. Je les ai toujours d'ailleurs dans ma bibliothèque. Et c'est l'histoire de ce frère anglais qui avait... Maintenant, il est auprès du Seigneur depuis peu de temps. Il avait quelques années de plus que moi. À l'époque, lorsque les communistes ont pris le pouvoir en Chine avec Mao Tse-tung en 1949, il était là-bas, au Tibet, il prêchait l'Évangile. Quand Mao a pris le pouvoir, eh bien, ça allait mal pour les chrétiens et surtout pour les missionnaires. Et voilà que eh bien, ce frère, Geoffroy, donc, s'est retrouvé en prison, en plus en cellule solitaire, et on lui a subi le lavage de cerveau. Il passait des semaines entières sans voir personne. Le soir, il y avait juste une main qui, dans une trappe en bas de la porte de sa cellule, un bol de riz lui arrivait. C'était comme ça qu'il survivait, dans une petite cellule, tout seul, pendant sans sa Bible en plus. Sans sa Bible, et ça durait, eh bien, 3 ans. De temps en temps, on le sortait pour lui faire subir le lavage de cerveau, pour lui expliquer, n'est-ce pas, que le christianisme s'était terminé, etc., etc., et pour essayer de lui inculquer eh bien, les principes du nouveau régime, etc., etc. Il a fallu toute la grâce du Seigneur pour qu'il tienne le coup. Il ne peut rien faire sauf prier, et justement, eh bien, même malgré le fait qu'il n'avait pas sa Bible, il dit plus tard dans son livre, que, eh bien, il repassait dans son cœur tout ce qu'il avait appris à l'école du dimanche de l'époque, tous les passages, eh bien, il se rappelait, et peut-être pas de tout, parce que personne ne connaît la Bible toute par cœur, mais il se rappelait de tout cela, il repassait tout cela dans son cœur et le Seigneur le visitait par son esprit, de sorte que finalement, eh bien, le temps passait assez rapidement. Et il faisait de nouvelles expériences et Dieu lui montrait des choses qu'il n'avait jamais comprises et réalisées auparavant. Eh bien, il était dans une situation, il était là, entouré par les 4 murs. Il ne voyait personne, souvent pendant des jours et des jours et des jours, mais le Seigneur était là avec lui. Alléluia. Le Seigneur était là avec lui. Et les frères, les sœurs, eh bien, dans d'autres pays, bien sûr, priaient pour lui. Et jusqu'au moment où trois ans plus tard, eh bien là aussi dans un concours de circonstances qu'on n'a jamais vraiment su ce qui s'est passé, finalement, il était expulsé. Hein, tout d'un coup, eh bien, l'ordre est venu. De qui, pourquoi, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que derrière tout ça, il y avait le Seigneur qui veillait sur son serviteur. Tout ça, je vous le dis parce que des fois, on se retrouve aussi dans des situations. On ne sait pas que faire. On est là, on réfléchit, n'est-ce pas? Mais Dieu, il veille sur toutes choses, que son nom soit loué. Et le titre d'un de ses livres où il explique tout ça, c'était « Dieu tient la clé ». Dieu tient la clé. Je peux vous dire, si jamais ce matin quelqu'un se retrouve quelque part dans tout ce que je suis en train de dire, eh bien, je voudrais aussi vous le souligner et vous le rappeler. Dieu tient la clé. En fait, il est la clé. Il est la clé. Hein? Et il peut ouvrir la porte. Nous avons entendu ce don spirituel. Eh bien, et je l'ai dit dans ma prière, parce que tiens, j'ai dit ça, ça m'encourage à vous dire ce que je dis. Eh bien, comme il est dit dans l'Apocalypse, quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Il est tellement fidèle, que Dieu soit loué. Hein? Je me rappelle aussi que nous étions en poste à Bourges, hein, il y a pas mal d'années maintenant. À un moment donné, on changeait de salle, on n'avait pas trop le choix parce que la ville nous avait expropriés pour agrandir et élargir le boulevard où notre salle se trouvait. On n'avait pas le choix. Alors, on avait 3 mois pour trouver un nouveau local. Alors, on était là, je peux vous dire que, hein, on priait, on disait, Seigneur, comment on va faire, hein? Et je pense à certains frères, justement, qui voulaient aider financièrement. C'était notre secrétaire. Et en même temps, dans la vie, son métier, son travail, il était secrétaire de mairie dans un petit village, pas trop loin de Bourges. Il voulait aider, mais il a dit, tu sais, il me dit, eh bien, pour l'instant, je ne peux pas, mais je voudrais bien, seulement, voilà, il a dit, j'ai fait un héritage. J'ai hérité du décès de quelqu'un de sa famille à Dijon. J'ai hérité de tout un immeuble qui a de la valeur, mais pour diverses raisons, aujourd'hui, je ne me rappelle pas trop et ce n'est pas important, il m'a dit, le dossier est bloqué. Hein, ça fait des mois et des mois et des mois que c'est entre les mains du notaire et d'autres, n'est-ce pas, qui s'occupent de tout cela. Il n'y a rien à faire. Eh bien, j'ai une petite fortune qui m'attend là-bas, mais je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. C'est bloqué, je ne sais même pas pourquoi. Et je ne sais pas que faire. Et il a dit, mais si jamais, eh bien, ça se débloque, si jamais je rentre dans mes fonds, hein, eh bien, je serai généreux envers le Seigneur parce qu'on voulait financer quelque chose à la salle. Et donc, depuis les années, il y a quand même des détails qui m'échappent, mais en gros, on a dit, bon, on va prier le Seigneur. Ça fait des mois et des mois et des mois que c'est bloqué et il n'y avait rien qui indiquait que ça devait se débloquer dans les jours qui suivaient. Mais on va prier le Seigneur, parce que lui, il peut bloquer, débloquer. Ils ont prié. Il a fait un genre de promesse au Seigneur. Il a dit, Seigneur, si tu débloques cette situation, voilà, je ferai ça et ça et ça. Eh bien, dans les jours qui ont suivi, c'était débloqué. Dans les jours qui ont suivi. Et ça nous a permis de faire ce qu'il fallait pour la nouvelle salle de culte. Eh bien, oui, il y a des situations, peut-être dans votre vie, peut-être pas dans ce domaine-là, ça peut être finalement n'importe quoi, où tout est bloqué. Mais notre Seigneur, il a la clé. Il est la clé. Que son nom soit loué. Alléluia. Hein? L'autre cas de figure, c'est lorsqu'il y a carrément persécution. Bon, c'est vrai que nous vivons dans un pays où, merci Seigneur, il y a liberté de culte. Tout à l'heure, je ne pense pas que eh bien, la police ou les agents secrets vont venir pour m'emporter, même si, en tant que Britannique, avec le Brexit, je ne sais plus où j'en suis là. Hein, je suis peut-être déjà un migrant. Je n'ai rien contre les migrants, mais bon. Hein, si vous suivez un peu, je vous conseille de ne pas le suivre parce que personne ne comprend rien. Surtout nous, les Britanniques, on est là, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Finalement, personne ne sait ce qui va se passer. La seule chose que je sais, c'est que c'est la panique totale. Hein, mais si, les Britanniques sont terribles, hein, quand ils sont pénibles. C'est, hein, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Eh bien, c'est vrai, nous sommes dans un pays où il y a liberté de culte, on est quand même assez tranquille, quoique, on nous surveille de près, hein. Ne vous en faites pas, hein. Vous et moi, on est surveillés. Il y a peut-être au milieu de nous des gens, des spars, des agents secrets en train de tout noter. Non, mais il ne faut pas, ça existe. Dans d'autres pays, c'est certain. Dans d'autres pays, c'est certain. On reçoit des nouvelles de divers pays, eh bien, où les chrétiens sont carrément persécutés. Hein? Bon, merci Seigneur, mais néanmoins, peut-être que vous sentez un peu persécutés d'une façon ou d'une autre. Bon, des fois, on peut s'imaginer des choses aussi. Mais des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Des fois, on est harcelé dans le travail. Des fois, on est harcelé, n'est-ce pas, par diverses personnes. Qui nous veulent du mal. On peut être accusé. L'autre jour, il y a un frère, eh bien, du sud-ouest où nous étions, et il m'a dit au téléphone, frère, il m'a dit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, j'ai envie de mourir. Tellement, il se retrouve dans une... Il est accusé, il est devant la justice, accusé faussement. Et c'est de véritables calomnies. Il dit, on m'a accusé, alors il arrive des trucs pas possibles. Eh bien, les gendarmes sont venus, il a passé quelque temps en garde à vue. Finalement, et là encore, on voit quand même que certainement que le Seigneur veille sur toute chose. Il aurait pu déjà être en prison, de façon préventive, mais la juge n'a pas ordonné ça, mais il est dans une situation terrible. Il m'a dit, je suis littéralement persécuté, j'ai des gens qui m'ont calomnié, eh bien, j'ai toute la justice qui me tombe dessus, et c'est vrai, c'est ce qu'on dit, moi je ne sais pas, je n'ai jamais été dans cette situation, que des fois que les procédures de la justice peuvent broyer les gens, n'est-ce pas, c'est ce qu'on dit. Enfin, lui, il dit que c'est... Et je l'écoute, je dis, ne fais pas de bêtises. Compte sur Dieu, il prie. Il a mobilisé tout un tas de gens qui l'aiment, qui le connaissent, pour prier pour lui. Et à un moment donné, lui a donné, je ne sais pas si on peut le trouver, c'est dans le Job 35, verset 14. Je me rappelle Job qui s'est retrouvé dans une situation terrible. Il avait perdu ses enfants, le diable s'est déchaîné contre lui, sa femme s'est retournée contre lui, il a perdu sa santé, il était là complètement ébranlé, il ne savait pas que penser. Eh bien, ses amis sont venus plutôt pour l'enfoncer, n'est-ce pas? Des amis comme ça, c'est vrai, on n'en a pas besoin. On n'a surtout pas besoin d'ennemis quand on a des amis comme ça, qui l'enfonçaient, qui l'accusaient. Mais il est dit... Dans le Job, chapitre 35, verset 14, « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. » Votre cause, ta cause, frère, sœur, ami, ce matin, eh bien, elle est devant le Seigneur. Elle est devant le Seigneur. Ta cause, je ne sais pas ce que ça peut être. Je ne sais pas du tout. Hein, je ne vous connais pas. Je connais mon petit-fils Pierrick là derrière sa barbe, sinon je ne le connais pas. Hein? Je commence à connaître sa fiancée. Hein? Je ne vous connais pas. Peut-être que vous vivez des situations, vous êtes peut-être harcelé. N'est-ce pas? Il y a là quelqu'un, qui, des gens, peut-être une administration, ou peut-être, je ne sais pas ce que ça peut être. Hein? Et vous vous sentez vraiment persécuté, persécuté. Mais ta cause est devant lui. Il est là, le défenseur. Job a pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Dieu aura le dernier mot. Et c'est ce que j'ai dit à ce frère au téléphone. Je comprends ta situation. C'est certainement pénible d'être dans une situation pareille. Hein? Mais ta cause est devant le Seigneur. Eh bien, il te défendra. Eh bien, peut-être que tu as commis certaines erreurs, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le dire. Moi, je n'ai pas le dossier, de toute façon. Je ne suis pas ni ton avocate, ni eh bien, le juge qui instruit ton cas. Mais toujours est-il que compte sur le Seigneur, compte sur lui et tu verras, tu ne seras pas déçu. Vous vous rappelez ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël, hein, ils étaient en train de sortir de l'Égypte, ils n'étaient pas encore pleinement sortis, ils n'avaient pas encore traversé la mer Rouge et pour l'instant ils ne savent pas ce que Dieu va faire. Et tout d'un coup, ils voient que Pharaon, le roi d'Égypte, avec ses troupes, avec ses soldats, viennent, ils arrivent. Ils voient la poussière soulevée par les chevaux, par leurs chars. Ils comprennent qu'ils ne sont pas trop loin. Et ça va être un massacre. Ça va être un bain de sang terrible. Et devant toi, devant eux, il y a la mer Rouge. Ils vont faire quoi? Bientôt, cette mer va bien porter son nom parce que les Égyptiens vont les massacrer et effectivement, eh bien, ce sera un bain de sang. Vous vous rappelez ce que eh bien, Moïse a dit, il a crié à le Seigneur dans Exode 14, 13 et 14. Hein, Moïse répondit, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et le verset suivant dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Hein, parce qu'ils étaient certainement loin d'être dans le silence. Ils étaient en train de rouspéter, de crier, de pousser des cris, n'est-ce pas, d'en vouloir à Moïse, etc. C'est gardez le silence. Restez tranquille, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Et je crois que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Hein? Il y a Pharaon et ses troupes qui arrivent d'un côté. Il y a la mer Rouge de l'autre côté. Vous allez faire quoi? Ben, vous faites ce que Moïse a dit. D'abord, vous restez tranquille. Vous gardez le silence. Vous allez voir, le Seigneur s'occupera de tout. Que son nom soit loué. Je sais que ça ne veut pas dire que dans toutes les situations, on ne dit rien. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Le problème, c'est qu'avec nous, enfin avec moi, souvent, j'inverse les choses. Quand il faut parler, je me tais, et quand il faut se taire, c'est là que je me parle. Et peut-être que là, je devrais déjà écourter un peu mon message, peut-être que je suis déjà sur le point où je ne devrais plus parler. Hein? Parce que les prédicateurs ont tous ce défaut fâcheux, ils ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas s'arrêter. Hein? Ça me rappelle une histoire qu'on a lue dernièrement. Eh bien, dans l'église, il y avait une dame qui s'est endormie. Est-ce qu'il y a une dame endormie ce matin? Bon, pas pour l'instant. Et le pasteur s'est rendu compte que cette dame dormait. Alors, il appelait, il y avait à côté de lui, il y avait un des anciens de l'église, il dit, frère, réveille-la, donne-lui un coup de coude, tu la réveilles. Et le frère dit, non, pasteur, c'est toi qui l'as endormie, alors c'est à toi de la réveiller. Pas mal, celle-là. Gloire à Dieu. Et le dernier cas de figure, c'est dans Jacques, chapitre 5, et le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Oui, des cantiques. C'est bien ce matin, des cantiques anciens, des cantiques nouveaux. Il y en avait un ou deux que je ne connaissais même pas, et d'autres que on les chante depuis 60 ans. C'est bien, un peu de tout, c'est bien. Enfin, ça c'est mon opinion, mais je suis toujours d'accord avec mon opinion, ça va. Et après, quelqu'un parmi vous l'est-il malade, qu'il appelle le docteur? Ah non, c'est pas marqué ça. Bon, et pourtant, Dieu n'a rien contre les docteurs, loin de là. Luc était le médecin bien-aimé. Et bon, tout ça nous arrive d'aller consulter le docteur à certains moments. Hein? Et je sais que j'ai toujours encouragé les gens à entrer dans le corps médical, dans une carrière médicale. C'est quelque chose de très louable, hein, très honorable. Mais oui, le texte ne dit pas d'aller consulter les docteurs, même si ce n'est pas interdit. Hein, je le souligne tout de suite, loin de là. Mais aussi de se rappeler que nous avons le grand docteur, le médecin céleste. Et c'est un peu affolant parfois quand on voyage dans les églises de s'apercevoir que l'imposition des mains pour les malades et l'onction d'huile pour les malades, ça se pratique, mais j'ai l'impression beaucoup moins qu'avant. Et c'est dommage, parce que moi je crois que le Seigneur agit. Et en voyant notre jeune ami là rentrer, tout à l'heure, j'ai senti dans mon cœur que je vais prier pour lui. Et je ne le connais pas du tout, c'est la première fois que je le vois. Et moi je crois de tout mon cœur que d'abord que Dieu c'est le divin médecin, hein, le docteur céleste. Moi-même j'étais plus d'une fois guéri, ça peut être instantanément, j'étais guéri, mon épouse aussi une fois ou deux, instantanément. Des fois, c'est à travers, les voies normales. Hein, Dieu nous envoie voir le médecin traitant et suivre un parcours tout à fait normal. J'étais opéré du cœur. Dernièrement, j'avais des absences. J'ai eu une fois d'eau des absences. On est allé voir un spécialiste à Manosque et il a prouvé ce que ma femme, moi je m'en doutais, ma femme, je n'ai rien à la tête. Je n'ai rien dans la tête. Enfin, donc, j'ai maintenant la preuve médicale que tout va bien. Tout va bien. Hein? Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas contre, loin de là, on n'est pas contre d'aller consulter, de voir des spécialistes, ne serait-ce pour avoir la preuve que le Seigneur a agi. Hein? Mais en même temps, il y a des situations où les médecins sont dépassés, c'est normal, ils sont quand même des êtres humains comme nous. Et il y a toujours quelque chose qui est plus difficile, qui est au-delà de leurs compétences. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas un problème. Alléluia. Et chaque fois que j'ai prié pour les malades, soit par l'imposition des mains, soit avec l'onction d'huile, j'ai toujours cru que le Seigneur fait quelque chose. Et des fois, c'est instantané. Des fois, c'est quelques temps plus tard, mais il agit, il fait quelque chose. Je vais prier pour notre ami avant d'arrêter. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Dieu peut le guérir instantanément, mais même si ce n'est pas le cas, puisque je ne sais pas, quelque chose va se passer. Ça, je le crois de tout mon cœur. Parce que nous avons un Dieu qui est fidèle, que son nom soit loué. Alléluia. Je vais prier pour lui.